Bonjour et bienvenue à ce deuxième balado, ici Diane Lauzier, votre animatrice. Cette année, le thème « Nous habitons des mondes imaginés ». Ça, c'est le titre d'un chapitre du livre « La nuit, j'écrirai des soleils » de l'auteur français Boris Cyrulnik. Eh bien, on pourra écrire beaucoup de choses, parce que le site du Salon du Livre est riche. Beaucoup, beaucoup de choses cette année. Évidemment, nos auteurs et nos autrices ne peuvent pas nous rendre visite, mais ils le font quand même virtuellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente dans ce balado? On va parler des joutes littéraires et du fameux prix La Coque d'Or. Oh, c'est magnifique. Restez là, vous allez voir. On va également parler des bouées littéraires. On va faire un petit tour aussi du côté des bouées littéraires jeunesse. Et je commence tout de suite en vous présentant notre invitée. Elle est une autrice dramatique et une traductrice littéraire. On lui doit 8 pièces de théâtre et plus d'une dizaine de traductions, tant en poésie, en prose ainsi qu'en théâtre, autant vers le français que vers l'anglais. Elle est une des autrices invitées au Salon cette année. Elle nous présente sa pièce « Havre », une histoire d'amitié entre Elsie et Matt, qui vivent des moments difficiles. Tous les deux vivent à leur manière l'absence. Une pièce si bien ficelée qu'elle lui a valu le prix du gouverneur général du Canada. Mishka, bonjour.
Bonjour.
Ta pratique est ancrée en Ontario, dans la francophonie canadienne également.
Ouais.
Puis tu es devenue la première dramaturge hors Québec en 15 ans à décrocher un prix du gouverneur général du Canada depuis notre MAHC national, juste en 2004. Donc, on était dû. C'est tout un exploit. Tu as reçu ça comment, Mishka?
C'est sûr que c'est un immense honneur. Juste le fait d'être en liste pour le prix du gouverneur général, c'est un grand honneur parce que la compétition est assez féroce, puis on le sait tous. Donc c'est vraiment un moment un peu surréel, surtout parce que la journée où on lance les finalistes des prix, on n'est pas au courant. Donc je me suis réveillée le matin quand le communiqué de presse sortait à 7h du matin. Moi, je dormais. Donc, quand je me suis levée ce jour-là, j'avais des notifications sur tous mes médias sociaux. J'en avais des centaines et je comprenais pas pourquoi. Donc, ça a été vraiment un moment un peu surréel cette journée-là. Par la suite, dans le fond, j'ai su environ une semaine plus tard que c'était moi qui avait remporté le prix. Puis ensuite, j'avais environ 3 semaines avant l'annonce officielle où j'avais pas le droit de le dire à personne. Donc ça a été un moment intéressant aussi.
Ça va être tough, ça?
Oui, je l'avais dit à mon conjoint, puis je l'avais dit à ma mère, puis c'est tout. Donc j'ai été très bonne avec garder ce secret-là. Dans le fond, on le sait à l'avance quand on est lauréat parce que la journée de l'annonce, c'est un peu la même chose. Le communiqué de presse est lancé à 7h du matin et à partir de là, ça n'a pas arrêté cette journée-là. C'était entrevue par-dessus entrevue, beaucoup de temps à la radio avec les journaux, toutes sortes de choses. Il y avait certaines entrevues pour les journaux que j'avais fait la veille de l'annonce qui allait être sous embargo jusqu'à 7h du matin le lendemain. Mmh. C'était un peu pour libérer ma journée pour tout ce qui était en direct, fait que la radio et la télévision. Donc, ça avait été une vraiment grosse journée. Puis les jours, l'impact est assez intense, là.
Mais c'est un gros impact, je veux dire. Puis il y a une fierté qui rejaillit sur la francophonie. Ça dure son temps. Mais est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu as des répercussions? Ben oui, je t'en parle aujourd'hui, mais ça a de réelles répercussions.
Oui, absolument. C'est certain qu'au-delà du prix financier, du montant qu'on reçoit, qui est assez substantiel, c'est certain que ça m'a ouvert beaucoup de portes en termes de en termes d'impact de mon travail. Ça a eu des répercussions sur les ventes de mon livre. On s'entend aussi qu'une pièce de théâtre comme de la poésie, c'est les choses qui vendent le moins pour les éditeurs. Donc ça a quand même été un moment intéressant de voir la vente augmenter. Ça a ouvert beaucoup de portes en termes d'invitations, un peu comme le Salon du livre de la péninsule acadienne. J'ai été, juste avant la pandémie, j'étais une des invitées d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais.
Où tu habites?
Où j'habite, et j'avais eu aussi une invitation, admettons, pour le Wakefield Writers Fest, qui est quand même un des gros festivals de littérature. À Wakefield, au Québec, c'est une communauté, rurale de la région de l'Outaouais, mais c'est très champêtre et tout, donc c'est vraiment un bel événement qui a été malheureusement annulé cette année parce que c'était à la fin mai. On espère qu'il va pouvoir y avoir une reprise l'an prochain.
D'ailleurs, tu voulais beaucoup venir dans la péninsule, venir dans notre coin parce que tu n'es jamais venue.
Non!
Au Nouveau-Brunswick, juste dans la péninsule.
Au Nouveau-Brunswick, en tout, je ne suis jamais venue. Ma seule expérience des Maritimes, c'est vraiment la Nouvelle-Écosse où j'étais allée en vacances. J'aurais vraiment voulu venir au Nouveau-Brunswick cette année.
Mais écrire une autre pièce gagne un autre jeu.
Mais ça a vraiment eu un énorme impact. Puis en termes d'être une lauréate dont la pratique est ancrée dans la francophonie canadienne, c'est vraiment ça me fait un énorme honneur de pouvoir porter ça pour la francophonie canadienne, autant qu'Emma Haché en 2004. Puis aussi, nous, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que la région d'Ottawa n'avait pas eu un lauréat du gouverneur général depuis plusieurs années. Donc, ça a été... La machine médiatique a été très emballée du côté d'Ottawa aussi. On avait 5 finalistes des prix du gouverneur général qui venaient de la région d'Ottawa.
Oh!
Et il y a moi qui a gagné. Donc, la région d'Ottawa a été très bien représentée au prix du gouverneur général cette année-là.
Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment ce que ça peut représenter, c'est comme la Coupe Stanley au hockey.
c'est le prix littéraire le plus prestigieux au Canada. On pourrait s'entendre pour dire que, admettons, du côté anglophone, il y a le Scotiabank Giller, qui est un très gros prix pour les romans et qui est plus d'argent que le prix du gouverneur général. Mais ce qui est intéressant avec les prix du gouverneur général, c'est que c'est pour tous les genres littéraires, incluant la littérature jeunesse. C'est autant en français qu'en anglais. Donc, on a 7 lauréats en français, 7 lauréats en anglais à chaque année.
Si on revenait à Havre, qui a été mise en lecture à Montréal, à Ottawa, en France. Ça a été monté à Saskatoon avant d'être reprise en Suisse. Puis, ça a été traduit et joué en allemand et en anglais. Mais il n'a toujours pas été joué dans la région d'Ottawa.
Non.
C'est vrai?
Non, ça n'a pas été joué encore dans la région d'Ottawa. Il y a une production qui est en cours en ce moment du côté d'Ottawa. Je crois que j'ai le droit d'en parler parce que les répétitions sont commencées. Du côté de la vieille.
Ah! OK! Ah ben ça c'est bien. C'est le fun d'entendre. Si on parlait de ce qui a contribué à l'écriture, parce que c'est important d'avoir les moyens d'entrer en nous-mêmes et d'être dans un lieu qui apporte ça. Il y a 5 ans, en 2015, tu as bénéficié d'une résidence d'écriture à Banff. Oui. Et ensuite, tu as continué ton travail d'écriture pour Havre. Tu étais en résidence d'autrice au Théâtre de la Catapulte à Ottawa. Et c'est pour te questionner sur le sujet de la pièce Havre qui traite du deuil sous toutes ses formes. Mais qu'est-ce qui a été ta première inspiration? Parce que, tu sais, on habite, si je fais un parallèle avec les comédiens, quand je prends un rôle, ben je sais que ça va m'habiter pour plusieurs semaines, voire des mois, de me questionner, d'apprendre le texte, tout ça, mais c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose avec
Avec un auteur, une autre?
Ben, moi, je fonctionne beaucoup soit par image, soit par impression. Il y a toutes sortes de choses qui m'intéressaient et qui se sont mises ensemble pour former ce qui est un peu le squelette de Havre. Donc, une des choses qui m'intriguait, c'était la notion de deuil privé et de deuil public. Comment on fait le deuil en tant que personne privée d'une personne qui pour nous est une relation intime, mais qui pour le monde entier est une figure publique. Donc, on a eu ce week-end la mort très malheureuse de Ruth Bader Ginsburg, qui est une figure exceptionnelle de la politique américaine, une juge de la Cour suprême, mais c'est aussi une mère, c'est aussi une grand-mère, c'est aussi cette famille-là qui doit faire le deuil de cette femme qui est un monument, puis avec tout ce qu'elle représente en ce moment pour la politique américaine, est-ce qu'on peut vraiment faire le deuil de cette femme-là? Une des images que j'avais quand j'écrivais Havre, c'était les fils de la princesse Diana. Donc, je me rappelle d'avoir regardé les funérailles de la princesse Diana à la télévision avec ma mère. Puis, ce qui me fascinait le plus dans cet événement-là, c'était les deux fils, les deux princes qui ont mon âge. Donc, le prince William est plus vieux que moi, le prince Harry est plus jeune, je suis entre les deux. Mais j'étais fascinée par ces deux enfants-là qui avaient le même âge que moi, qui perdaient leur mère, ce qui est déjà en soi quelque chose de traumatisant, de terrible, puis qu'en plus, ils devaient faire ça devant toutes ces caméras-là, puis devant tous ces gens. Donc, il y avait vraiment quelque chose là-dedans qui me fascinait. Il y a aussi l'idée de ce qu'on laisse derrière en tant qu'auteur, en tant qu'humain. Ça, c'est une des choses dont j'avais parlé aussi au tout début de l'écriture de Havre. Bon, je venais de prendre une police d'assurance vie, puis là, on me disait à qui tu envoies ton argent, des choses comme ça. Je disais, bon, argent, c'était vague dans ma tête à ce moment-là. Mais à un moment donné, cette compagnie d'assurance-là m'a appelé en 2015, quand je commençais à travailler sur Havre, pour me dire qu'ils pouvaient maintenant s'occuper de ce qui était les droits artistiques. Donc, qu'ils pouvaient m'aider à formuler un plan pour à qui allaient aller mes droits artistiques, ce qui est quand même une vraie question parce que la loi sur le droit d'auteur au Canada, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. Donc, à qui j'envoie ça, moi qui n'ai pas d'enfant? Donc, comment on règle cette question-là? Ça fait partie de la réflexion qui a un peu alimenté Havre. Puis, tout ce qui est l'histoire de Matt avec la guerre d'ex-Yougoslavie, pour moi, dans le fond, c'est le conflit qui était un peu à la télévision dans mon enfance. Donc, il y avait ce fond de guerre-là dans mon enfance qui était à la télévision que je voyais. Puis, le Canada est un pays qui a accueilli beaucoup de réfugiés d'ex-Yougoslavie. La région où j'ai grandi a accueilli énormément de réfugiés de la Serbie. Donc, c'est vraiment du jour au lendemain, ma classe était pleine de Yougoslaves. Donc, il y a eu vraiment un moment où j'ai été, moi, à la rencontre de ces gens-là qui avaient le même âge que moi et qui avaient vécu quelque chose de complètement différent. Puis ça m'a vraiment marqué. Donc, dans les quelques amis que j'ai qui viennent de l'ex-Yougoslavie, j'ai des histoires, un éventail de leurs histoires qui est complètement, qui va de genre... On s'est presque pas rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passait parce que mes parents nous l'ont beaucoup caché. À genre, on s'est sauvé dans un camion via l'Autriche, puis on savait pas si mes parents allaient venir. Puis j'ai vécu 6 mois dans la rue à Vienne avec mon frère. Donc, il y a eu vraiment comme un éventail de ça dans les expériences de mes amis. Puis, il y avait quelque chose que je voulais faire avec ça dans un texte. Je me suis beaucoup inspirée quand j'étais à Banff des récits de photojournalistes qui avaient couvert la guerre d'ex-Yougoslavie. Donc, la bibliothèque à Banff avait des genres de grands livres, des genres de coffee table books de photos, de photojournalistes de l'agence France Presse ou de l'agence de presse canadienne, tout ça. Donc, c'était intéressant de regarder ces photos-là. J'ai fait énormément de recherches sur la guerre d'ex-Yougoslavie pour écrire Havre. Il n'y a presque rien dedans, mais c'est correct. C'est vraiment... C'est pas un texte sur la guerre que je voulais écrire, puis c'est pas non plus une histoire qui m'appartient. Mais c'est vraiment cette expérience-là de cet enfant-là qui arrive au Canada avec un morceau qui lui manque. C'était plutôt ça ma fascination, si on veut, cette idée-là qu'on bloque peut-être un peu tout ce qui est trop traumatisant. Donc, c'est ça. Toutes sortes d'images qui viennent créer cette espèce de squelette-là.
Mais ce qui m'est venu, moi, à la fin de la lecture du texte, que je trouve brillant en passant, puis on comprend pourquoi il a reçu le prix du GG, c'est qu'il y a une phrase qui m'est venue, celle de Raoul Duguay, « Tout est dans tout ». Parce que dans cette pièce-là, « Tout est dans tout », il y a le hasard, on se dit « Ouais, c'est sûr que... » Ben, je dis « C'est sûr ». Souvent, dans notre vie, on se questionne sur le hasard. Moi, je me suis souvent questionnée, est-ce que tout arrive pour une raison? Pourquoi ça apparaît quand je m'attendais à autre chose? Donc, il y a ça en toile de fond de la pièce. Et puis, tu as les deux personnages qui vivent leur absence. Ils sont touchés tous les deux, mais tu as Elsie. C'est très difficile de parler de quelque chose sans en dévoiler trop. Mais à vie, on l'apprend assez rapidement, le deuil de sa mère. Mais sa mère, elle a un deuil par rapport à deux deuils. Sa mère qui est vraiment partie et sa mère qui n'a jamais vraiment été dans sa vie.
Ouais.
Il est une célébrité. Puis là, on se dit, être célèbre, est-ce que ça veut dire enlever des moments que j'aurais pu vivre avec mes intimes? Je l'ai donné à la population. Donc, il y a ça qui nous confronte quand on lit ça. Et il y a le Matt qui vit l'absence de sa mère et son père, mais qui n'a jamais rencontré. Donc, on se questionne sur l'absence. Je présume que c'était voulu de ta part.
Oui, puis il y a...
Vraiment l'absence. Est-ce qu'il y a vraiment une absence pour qu'on sente l'absence?
Oui, ben pour moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire le texte à Banff en 2015, il y avait un troisième personnage, donc il y avait le personnage de la mère de Gabrielle Soriol, elle était là dans des scènes de flashback. Puis à un moment donné, dans l'écriture du texte, ce personnage-là est disparu parce que ça fonctionnait pas.
Okay.
Pour plein de raisons dramaturgique, ça fonctionnait pas, je l'ai enlevé. J'ai réécrit la pièce avec seulement Matt et Elsie. Donc, puis pour moi, parce que ce personnage-là existait au début de l'écriture, c'est devenu peut-être quelque chose où elle brille par son absence, parce qu'elle était là, puis je l'ai retirée. Mais il y a vraiment des concordances entre les absences de Matt et Elsie. Les absences qu'ils ressentent sont parfois les mêmes, mais sont parfois différentes. Mais souvent, elles concordent. Donc, leurs trous, leurs failles, les choses qu'ils cherchent sont similaires. Donc, on vient créer comme une espèce de rapprochement entre les deux parce que ce qu'ils cherchent, c'est très intime, c'est très individuel. Le deuil, c'est un processus qui est très intime, mais ils viennent se rencontrer dans l'endroit où ils vivent ça.
Oui, et de dire, je me suis posé la question, ça nous fait nous questionner, ça c'est très bon. Ça doit être un des buts d'écrire une pièce de théâtre, c'est de nous chambarder. On se dit, est-ce que dans ma vie, j'ai un moment d'avant et d'après?
Oui. Puis ça a été pour moi, c'est à peu près au milieu de la pièce, puis pour moi, c'est vraiment une chose importante. Moi, j'en ai un dans ma vie, un moment comme ça, qui vient cicatriser, où on se dit, il y a eu avant ça, il y a eu après ça. J'ai l'impression que tout le monde en a un, que ce soit la perte d'un parent, que ce soit autre chose, que ce soit même pas la perte d'un être cher, il y a un moment qui vient définir le avant et le après ça. Puis, c'est un moment où on grandit, c'est un moment où on apprend. Mais sur le coup, c'est un moment qui est tellement extrême que ça vient fracturer quelque chose. Puis, pour Elsie, c'est vraiment la mort de sa mère.
Ça nous amène à une introspection. Il y a quelque chose avec cette pièce-là. Puis, en même temps, on est happé. C'est très, très bien ficelé. J'ai un moment préféré. Et c'est le moment, sans vouloir trop dévoiler, où on réalise comme lecteur, et c'est grisant, que le moment où les deux personnages se rencontrent. Mm-hmm. Et ça, c'est très habile. Encore là, je ne veux pas qu'on dévoile rien parce que c'est trop le fun à découvrir comme lecteur, mais quand on l'écrit, ça va être la dernière question parce qu'on va terminer avec ça, quand on écrit ce moment-là, est-ce que ça se fait à mesure et tu es aussi ébloui que le lecteur? Ou tu savais que tu allais vers ça?
Ben, en fait, des fois, quand j'écris le début de la pièce, puis après ça, j'écris la dernière scène, puis après ça, je me dis, je vais me rendre là de cette façon-là. Havre, ça s'est écrit un petit peu plus de façon linéaire, donc début à la fin. L'image de la toute fin, je l'avais, je savais que c'était là que je voulais aller. Mais en fait, le moment où j'ai coupé un personnage et j'ai réécrit la pièce m'a permis de vraiment aller à l'essentiel. Puis ce point-là de rencontre entre les deux personnages est devenu beaucoup plus important quand j'ai enlevé ce qui était moins utile qui était autour. Donc, comme on avait des scènes de flashback où il y avait le personnage de la mère, c'était comme si Elsie était diluée entre ces deux relations-là, entre celle avec Matt et celle avec sa mère, qui était présente un peu juste dans sa tête, dans son univers à elle. En enlevant le personnage de la mère, on avait tous les points de rencontre avec Matt devenaient un petit peu comme des chocs, devenaient quelque chose de très fracassant. Donc, la pièce est construite en monologue croisé. Fait que quand on a des scènes où les deux personnages se rencontrent et se parlent pour vrai, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est encore plus de l'ordre de l'émotionnel, on connecte avec ces scènes-là. Donc, c'est ça.
Voici maintenant un extrait de la pièce Havre de Mischka Lavigne. Mischka jouera Matt et je jouerai Elsie.
J'essaie de fondre dans le décor du salon funéraire. Partout autour de moi, les admirateurs de ma mère boivent du café, mangent des bouchées, s'échangent des cartes professionnelles comme si c'était une journée normale et un endroit normal. Ils regardent souvent dans ma direction et j'entends à voix basse qu'ils parlent de moi, de ce que j'ai dit tantôt devant tout le monde. Quand ils voient que je les regarde, ils me font un petit signe de tête et ils retournent à leurs affaires, à leurs idées et à leurs bouchées. Et plus loin, il y a mes amis. Ils ont mis leurs habits noirs et ils se parlent entre eux. Ils se demandent à qui d'entre eux j'ai téléphoné dans les derniers jours. Philippe regarde Julia, qui regarde François, qui regarde Ravi, qui regarde Catherine, et ils regardent tous Geneviève, qui, elle, me regarde. J'ai pas retourné leurs appels, pas un seul de leurs appels. Geneviève se détache du groupe et s'avance vers moi. Elle vacille avec ses talons hauts sur le tapis très épais et très mou. Arrivée près de moi, elle se penche vers mon oreille. Elsie, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi ce que je peux faire. Veux-tu t'en aller? Je peux te ramener à la maison. Laisse-les faire, eux, les autres. On va te ramener chez toi si c'est ça que tu veux. Dis-moi comment on peut t'aider. Je réponds pas la gorge serrée. Geneviève tient ma main. Elle fait jamais ça, tenir ma main.
Ça cogne et elle est là. À la porte de ce qui, il n'y a pas si longtemps, était notre appartement. Elle revient du yoga, les cheveux dans son bandeau rouge, son matelas sous le bras. « Mon courrier, Matt », qu'elle dit sans sourire, en tendant la main. « C'est nouveau, ta montre, que je lui demande ?» Même pas une fraction de seconde de silence, je me suis acheté une montre, j'ai le droit. Je réponds pas. Je lui donne la pile d'enveloppe à son nom. Son nom et notre adresse. Faux. Son nom et mon adresse. Elle s'en va sans rien dire de plus. Je la regarde partir comme si c'était un film.
Je suis assise dans les toilettes du salon funéraire, café à la main. La main qui sent encore le parfum de Geneviève. Geneviève que j'ai juste laissé planter là, avec mon silence. Dans les toilettes, je me cache de mes amis qui essaient vraiment, qui font plein d'efforts. C'est moi qui ne sais pas quoi leur dire. Mes lèvres plongent dans le café et dans trop de souvenirs. Moi, je bois mon café noir. Ma mère, elle, buvait toujours son café avec beaucoup de crème.
Je ne lui ai jamais demandé de me redonner mes sacs. Je pensais que ce serait plus facile si elle décidait de revenir. Je m'imaginais rentrer à la maison un soir et la voir là, dans notre appartement, comme si de rien n'était. Elle est partie fin mars, le jour de la dernière tempête de neige. Une semaine après son départ, un vendredi où la neige fondait, où la ville sentait l'eau, mon boss Sylvain est entré dans mon bureau et a déposé une clé sur ma paperasse. « Ton ex vient de passer, Matt, elle m'a donné ça pour toi. » Sa clé à elle qui trônait sur la pile de papier. Une clé dorée normale qui fait rien, pas de note, rien, juste la clé, toute petite, toute nue, abandonnée. Sylvain m'a dit de prendre le reste de la journée. Je suis rentrée chez moi à 2 h de l'après-midi, l'appartement plus vide que vide, et j'ai acheté un billet d'avion pour Sarajevo, départ le 4 juin, le jour de sa fête à elle. Allez voir ailleurs si je suis là. Le soir du 3 juin, je l'ai appelé. Je lui ai laissé un message de me rappeler, puis un message qui disait que j'allais à Sarajevo, puis un message qui l'invitait à venir à Sarajevo avec moi, puis un message qui la suppliait de venir avec moi. Elle n'a jamais décroché le téléphone le soir du 3 juin. Elle n'a jamais répondu. Je suis partie le 4 juin, tout seul.
Ce matin, avant les funérailles, je buvais un café dans ma tasse bleue, celle avec le motif de nénuphar que ma mère avait faite pour moi il y a des années. Je regardais la tasse, je pensais à ma mère. Je suis allée au frigo, j'ai pris le contenant de crème, j'en ai versé dans mon café, un peu, puis beaucoup, puis tout. Mon café avait la même couleur que la peau du visage de ma mère. Je ne l'ai pas bu, je l'ai laissé là, sur le comptoir. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti une boîte de mon placard. À l'intérieur, une toute petite paire de mocassins d'enfant avec la fourrure de lièvre et d'autres mocassins plus grands. Les perles presque toutes tombées, le talon gauche abîmé. Ma mère, quand elle écrivait, elle aimait sortir son talon et balancer son mocassin au bout de ses orteils, seulement son pied gauche. Je sais pas pourquoi. Elle s'en était acheté des nouveaux quelque part au Manitoba. Moi, j'avais gardé les vieux. Ils m'ont jamais fait, les mocassins de ma mère. Les miens, trop petits, les siens, trop grands. Moi, entre les deux.
La pile de lettres partie, c'est comme si même son nom s'était effacé de notre appartement, de mon appartement. Mes vacances ne sont pas officiellement terminées encore, mais je ne peux plus rester ici à regarder les murs, à penser à elle, à penser à Sarajevo, à attendre rien, à attendre personne. Je rentre travailler demain.
Le café du salon funéraire est dégueulasse. Mes sincères condoléances au service de traiteur. Je le verse dans le lavabo. Je pleure pas. Je sors des toilettes, j'évite Geneviève et les autres. Je retourne à la maison, sans dire au revoir à personne, comme quand j'allais avec ma mère au salon du livre. Scène 4. Le trou dans la rue. Le premier jour, les policiers, ruban jaune, danger. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, la ville, des cônes orangés, un panneau, danger. Un dépliant pour les résidents de la rue. Les travaux d'urgence et vous. Être toujours prêt à évacuer si l'on vous demande, si le danger est trop grand. Le quatrième jour, le lendemain des funérailles, un homme casqué de blanc avec des instruments d'arpenteur géomètre. Le cinquième jour, rien. Le sixième jour, rien. Le septième jour, une nouvelle sorte de cône. Je suis en congé. Les collègues de l'université m'appellent un par un. Les amis aussi, un par un. Geneviève, elle, m'appelle tous les jours, toujours à la même heure. Jour 8, depuis la mort de ma mère, je suis écrasée sur mon balcon. L'air est lourd, le ciel est gris, presque blanc. Dans la rue, lui encore. L'arpenteur géomètre entouré de son équipe et de ses camions. Un enfant dans un carré de sable. Il lève la tête vers moi, ses yeux dans mes yeux. On se regarde, figé. Au loin, on entend le roulement du tonnerre, le vent se lève. Une femme de son équipe s'approche de lui, lui tape l'épaule, il sursaute. Il s'éloigne avec la femme, mais avant, il me fait un petit signe de la tête. un petit bonjour. Avec le pouce, ses deux doigts sur le bout de son casque blanc. Un cowboy arpenteur géomètre.
J'accroche solidement les cordages. Je boucle mon harnais et je commence à descendre dans le gouffre. Je suis suspendu au-dessus du vide et de la voiture rouge écrasée au fond du trou.
De mon balcon, j'entends crier « Down! »
Je suis dans le trou. Il fait humide. Un insecte escalade ma botte. Je regarde le ciel qui devient de plus en plus noir, découpé par les parois du trou. L'orage approche. Je suis dans le ventre de la ville. La rue éventrée d'ici et les images des rues de Sarajevo, une par-dessus l'autre. Je touche les parois du trou et la terre s'effrite sous mes doigts. C'est fragile, une ville, sous le béton, l'asphalte et les gratte-ciels.
De la rue, son équipe lui descend une grosse caisse.
Chaîne, S-hooks, courroie de nylon simili-test. J'attache la voiture rouge, je vérifie et revérifie les chaînes et les crochets pour pas qu'il y ait de danger quand notre grue sera prête à sortir la voiture du trou. On a retracé le propriétaire de la voiture avec les papiers à l'intérieur. Il est venu au bureau de la ville, il a pris le sac qu'on lui a donné avec les choses qui étaient dans sa voiture. Mais maintenant, je regarde et je vois sous le siège du conducteur, bien caché, un livre à la couverture bleue et blanc. Je prends le livre, je le sors, je le regarde. L'image de la couverture sous un cerne de café, les silhouettes d'édifices bleus sur fond blanc comme des veines, le titre en bleu plus foncé, Havre, et le nom de l'auteur, Gabriel Sauriol. Gabriel Sauriol. Son nom sur les écrans de télé à l'aéroport, son accident d'auto, ses funérailles. Elle est partout, dernièrement. À l'intérieur du livre, pour l'image de la couverture, ça dit « Sarajevo, impression, dessin de l'auteur ». Une première goutte de pluie s'écrase en plein centre de la couverture.
L'arpenteur remonte du trou et lance quelque chose dans son pick-up. Il donne un signal aux autres au son des moteurs. La voiture rouge est soulevée comme une épave. De la voiture, il pleut des morceaux de ville effondrés. La grue dépose le cadavre de la voiture sur une remorqueuse. Mon cœur se soulève. L'orage se déchaîne d'un coup. La pluie devient de plus en plus forte. Le cowboy arpenteur géomètre fait signe à son monde et tout s'éloigne. Grue, remorqueuse, camion, tout le monde s'en va, en laissant les deux différentes sortes de cônes et le ruban jaune de la police d'Angers sous la pluie battante. LC. Jour 9. À l'extérieur, les abords du trou grouillent de travailleurs aux uniformes de la ville. À l'intérieur, je remplis la baignoire malgré les 28 degrés dehors. Vautré dans l'eau chaude, je pense à des choses tristes pour enfin pleurer parce que si je pleure pas, c'est comme si la mort de ma mère voulait plus rien dire. Assise dans le bain, je pends mon pied pour attraper le robinet d'eau chaude du bout des orteils. Des gouttes inutiles, puis plus rien. Tuyau vide. Je plonge la tête sous l'eau.
Le matin du 9e jour, le 9e jour depuis mon retour de Sarajevo. Des choses à faire. Logement numéro 2, je cogne à la porte, pas de réponse. Sur la première page, la paperasse dans ma main, un nom qui me saute aux yeux, occupante du logement 2, Sauriol, Elsie. Je cogne, encore plus fort.
Ça cogne jusque dans le fond de ma poitrine.
Je cogne une dernière fois avec mon poing pour que ce soit fort, pas de réponse. Alors je prépare mon feuillet rose.
Je sors du bain.
Mon ruban collé.
Pense à m'habiller, pas le temps.
Ma signature à l'encre bleue sur le papier rose.
Je dégoutte partout.
Les travaux d'urgence, c'est vous.
J'ouvre la porte.
Face à face.
Le cowboy arpenteur géomètre.
La fille du balcon d'hier, en serviette.
Oui?
Je vous dérange? Excusez-moi, vous êtes bien Elsie Sauriol, l'occupante du logement?
C'est moi.
www.salonduLivrePA.com. Programmation. Tiens, joute littéraire, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des auteurs qui ont été réunis autour d'un même thème pour initier une joute conviviale des mots et des esprits. Ça, c'est une nouveauté cette année. On a invité des auteurs et des autrices dans différentes sphères, je dirais, de l'écriture. La poésie, le théâtre, le conte et le slam. Et ces auteurs sont réunis autour du thème de Partons, la mer est belle. Et ce sera disputé le samedi. En fait, on va dévoiler le 10 octobre prochain, en direct, à CKRO, notre radio communautaire située à Pocmouche, en plein centre de la péninsule acadienne, où là, on va offrir le trophée Coq d'or, qui est magnifique, à un des quatre auteurs suivants, c'est-à-dire MC June, Mischka Lavigne, Philippe Garon et Jonathan Roy.
Hey, on essaie, tu quoi? OK? Check. Il n'y a plus rien à perdre. L'hôpital est fermé, l'école est fermée même. Demain, il vient de fermer, fait. On essaie-tu? Ah ouais, t'es pas game. On colle dimanche, même si c'est mardi, on colle malade avant le grand burn-out. On se trouve une plage secrète. Avec du sable en poudre à couler, du sexe en de biche en crème solaire, des coups de soleil qui sentent le champ de fraises, puis des fondus au chocolat dans les yeux des dauphins, pendant qu'on marchera sur le bord de l'eau, tout nu, dans le soleil qui se couchera sur nos corps fondants, comme une cuillère de caramel se couche sur le premier Sunday de l'été, à la crèmerie du quai. Il y aura tout ça. Puis du chômage à l'année.
Bonjour, je m'appelle Philippe Garon et voici ma réponse à la joute littéraire dont le thème est « Partons, la mer est belle ». J'aimerais ça vous parler d'un jeune que j'ai connu le printemps passé. Marc-Antoine, qui s'appelle. Marc-Antoine travaille comme maraîcher. Sa blonde puis lui, ils vendent des paniers de légumes depuis une couple d'années. Puis ils tiennent un kiosque au centre du village pour écouler leur surplus. Je les regarde aller. Ils sont beaux à voir. Ils connaissent leur affaire. Deux vrais surdoués de jardinage. De l'horticulte, comme dirait ma fille.
Là, je suis toujours sur le site du Salon du Livre de la péninsule acadienne. Et si vous faites comme moi et vous allez dans la section bouée littéraire, vous allez découvrir le livre vers lequel des auteurs et des autrices reviennent toujours et qui leur colle à la peau, en quelque sorte. On nous présente des capsules vidéo ou audio. J'ai choisi la bouée littéraire d'un des nôtres, un auteur et un philosophe, qui habite maintenant dans la péninsule acadienne et nous en sommes très heureux. Voici M. Alain Deneau.
Un livre qui nous suit, un livre qui nous détermine, peut-être un livre de chevet qu'on relit plusieurs fois, qui nous accompagne physiquement, auquel on tient, que l'on cite. Et il peut y avoir aussi des livres qui nous structurent, qui nous conditionnent même, en creux. C'est-à-dire qu'on les a lus une fois, peut-être deux, pensant qu'il s'agissait d'une lecture parmi d'autres. Et à un moment donné, on se rend compte que ce que l'on fait, ce que l'on dit, notre comportement, se trouve au-delà de ce qu'on pouvait penser au moment de la rencontre entre le propos et soi. Que ce livre-là, en fait, est fondamentalement structurant. Et bon, moi, si j'avais spontanément eu à répondre à la question sans trop réfléchir, bon, quel est le livre qui compte le plus, ça aurait été sans doute Le Capital de Marx, ou plus fondamentalement un livre de poésie, tout simplement, de Gilles Vigneault, parce que Gilles Vigneault m'a permis de quitter ma région et de quitter la dimension strictement pratique de la langue quand j'étais adolescent pour comprendre que la langue permettait de faire plus que commander un sac de chips, quoi. Mais au fond, s'il y avait une réponse en y pensant bien, plus juste, ce serait Le traité de l'autorité politique de Spinoza, bon, qui repose sur l'éthique.
C'était la bouée littéraire de Alain Deneau. On peut également voir celle de Chloé Varin, Dominique Pelletier, Emmanuel Lauzon, Jean Babineau, Martin Roy, Mischka Lavigne, Philippe Basque, Philippe Garon, Rachel Robichaud et Valois Robichaud. Eh bien, c'est tout pour ce deuxième balado. Je remercie Eric Miller à la technique, Jean-Marie Pitt-Benoît à toutes les musiques, ici Diane Nausier à l'animation et à la réalisation.